Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 35 minutes de vidéo de l'attaque d'une synagogue hier en Allemagne ont été diffusées en direct par l'assaillant sur Internet. On y voit un tireur mal préparé. Une tuerie de masse a été évitée, mais deux personnes sont mortes.
Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue aujourd'hui. À l'ordre du jour, l'offensive turque. Elle provoque un tollé en Europe et ailleurs. Les précisions de notre correspondante à Bruxelles.
Autre réunion attendue aujourd'hui, cette fois au ministère de l'Agriculture, pour évoquer la facture des dégâts causés par l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen il y a 2 semaines. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Agriculteurs, enseignants, policiers, le nombre de suicides en France est-il en augmentation ? On posera la question à un psychiatre, Antoine Pellissolo.
Il a tué 2 personnes et en a blessé 2 autres. Voilà le bilan du parcours d'un meurtrier antisémite hier dans les rues de Halle, en Allemagne. Un bilan qui aurait pu être plus lourd encore. Il n'a pas réussi à entrer dans la synagogue de la ville. À l'intérieur, 70 personnes célébraient Yom Kippour, importante fête juive. L'assaillant a filmé une partie de son attaque et l'a mise en ligne sur Internet à la manière du tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ludovic Pietoni, notre envoyé spécial à Halle, a pu consulter cette vidéo qui nous en dit plus sur le profil du meurtrier.
C'est au volant de sa voiture, garée dans une ruelle tout près de la synagogue, qu'il lance ce flux vidéo en direct sur la plateforme Twitch, populaire chez les ados et les amateurs de jeux vidéo. On l'entend râler contre la mauvaise qualité du réseau. Il attrape son casque équipé d'une caméra, la tourne vers lui. Il a le crâne rasé, les yeux clairs et tout sourire, se présente en anglais. Salut, mon nom est Anon et je pense que l'Holocauste n'a jamais existé. Anon pour anonyme, un pseudo courant sur Internet. Ce négationniste poursuit. Le féminisme est responsable de la baisse de la natalité en Occident, d'où une immigration massive, et la racine de tous ces problèmes est le juif. La présentation est limpide de son vrai nom. Stéphane Ballier, 27 ans, est un néo-nazi masculiniste, raciste et antisémite qui se vante d'avoir bidouillé lui-même son arsenal, ses grenades et ses 2 fusils d'assaut qu'il ne cesse d'agiter, tout est très artisanal et cette vidéo, supposément son heure de gloire, démontre cet amateurisme. Dès l'entrée de la synagogue dont il trouve porte close, il perd ses moyens, sa grenade qu'il cale sous la porte n'est qu'un pétard mouillé. Il crève les pneus de sa propre voiture en voulant abattre dans le dos une femme qui passait par là. Il quitte les lieux, ne cesse de prononcer des insultes, s'excuse auprès de son public de n'avoir pas assez fait de victimes. L'attaque du restaurant turc n'est qu'un défouloir, une cible par défaut, où il fera une 2e victime. Certains témoins de cette fusillade avaient décrit un assaillant très calme. Cette vidéo de 35 minutes montre au contraire un gamin déguisé en soldat.
Une vidéo depuis supprimée de Twitch assure la plateforme propriété d'Amazon. Malgré les condamnations de la communauté internationale, la Turquie a lancé hier son offensive dans le nord-est de la Syrie. Elle vise une milice kurde alliée des Occidentaux dans la lutte contre les djihadistes. La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et elle aura lieu aujourd'hui, Angélique Boin.
C'est à la demande de ses membres européens que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence et à huis clos. La France, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni. Des Européens unanimes pour exhorter Ankara à cesser immédiatement cette offensive. Une attaque qui risque de déstabiliser davantage la région et de provoquer une résurgence de l'État islamique dénoncée d'une même voix hier la plupart des capitales. Des Européens qui condamnent et qui menacent. Si le plan de la Turquie est la création d'une zone de sécurité, n'attendez pas de financement de l'Union européenne. A très vite réagi le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Ankara dit en effet vouloir réinstaller dans la région attaquée une partie des 3,5 millions de réfugiés syriens accueillis sur son territoire. En riposte, l'Union européenne pourrait sans doute remettre en question le versement des aides financières négociées en 2016 avec le président Erdogan. 6 milliards d'euros promis, dont tout n'a pas encore été versé, en échange du retour en Turquie de migrants entrés illégalement en Grèce. Dans une déclaration commune publiée hier soir, les 28 États membres estimaient qu'il est peu probable que cette prétendue zone de sécurité réponde aux critères internationaux en matière de retour des réfugiés.
Angélique Boin, à Bruxelles, et hier soir, les forces démocratiques syriennes ont affirmé avoir repoussé l'offensive turque. Elle a déjà fait 15 morts, dont 8 civils, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui ajoute que des milliers de déplacés fuient les zones bombardées. Après la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, d'autres ténors du parti américain s'en prennent à Donald Trump. Hier, c'est l'ancien vice-président et candidat à l'investiture démocrate Joe Biden qui a pour la première fois appelé à la mise en accusation du locataire de la Maison-Blanche. dimanche. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le refus de Donald Trump de coopérer dans l'enquête en vue d'une procédure de destitution. Mais les démocrates semblent déterminés. Écoutez Joe Biden.
Le président Trump s'est lui-même placé en position d'accusé, en faisant obstruction à la justice, en refusant de collaborer avec l'enquête du Congrès. De lui-même, il s'est placé dans la position du coupable, et ce, aux yeux du monde et du peuple américain. Donald Trump a violé le serment passé au moment de sa prise de fonction. Il a trahi cette nation et commis des actes qui nécessitent sa mise en accusation. Pour préserver notre constitution, notre démocratie, notre intégrité, il doit être mis en accusation, pas seulement à cause des faits commis, mais aussi à cause de la menace que ce président représente pour le pays s'il devait rester en fonction.
Joe Biden. Et hier soir, Donald Trump a estimé que cette affaire, qui a commencé par la révélation d'une conversation entre lui et son homologue ukrainien à propos du fils de Joe Biden, finirait probablement devant la Cour suprême. Alors que le second tour de la présidentielle tunisienne est prévu dimanche, le candidat Nabil Karoui a été libéré hier. L'homme d'affaires, surnommé le Berlusconi tunisien, a été accueilli en héros à sa sortie de prison. Il était incarcéré depuis le 23 août dernier. Il est soupçonné de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Pour la première fois depuis près de 40 ans et la révolution islamique de 79, 3500 iraniennes vont pouvoir assister à un match de foot dans les tribunes du stade Azadi de Téhéran à l'occasion de la rencontre Iran-Cambodge, un match de qualification pour le mondial 2022. Le pouvoir était sous pression, il a fini par accorder une autorisation historique, Fanny Lechevestrier.
3500 iraniennes qui ont pu acheter un billet pour cette rencontre de football masculin pour la première fois depuis la révolution islamiste. Parmi elles, Edie, 32 ans.
Je suis contente. C'est la victoire de toute une partie de la société après un long combat pour gagner ce droit universel. Mais de notre côté, c'est triste aussi, car quelqu'un a dû mourir pour qu'on l'obtienne.
Avec la mort de celle que l'on a surnommée la fille bleue Sahar, arrêtée pour avoir tenté d'assister à un match déguisé en homme, coiffée d'une perruque bleue aux couleurs de son équipe, et qui s'est immolée par le feu en septembre dernier. C'est son suicide qui a provoqué l'émoi de la communauté internationale et poussé la FIFA à faire pression sur l'Iran. Une victoire au goût amer pour Azadeh Khan, professeure franco-iranienne de sociologie à l'université Paris Diderot.
C'est un tournant. Le problème, c'est qu'on leur a accordé que 3500 places, alors que des dizaines de milliers de places qui sont attribuées aux hommes restent vides.
Et Amnesty International de dénoncer un coup publicitaire cynique avec des femmes parqués dans des portions de tribunes. La FIFA, qui supervisera le match, promet elle de maintenir la pression pour qu'à l'avenir tous les stades soient ouverts aux iraniennes sans aucune limitation.
Les précisions de Fanny Lechevestrier.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Une réunion importante doit se tenir cet après-midi au ministère de l'Agriculture.
Didier Guillaume a invité les organisations professionnelles agricoles pour faire le point deux semaines après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen. Il a eu de lourdes conséquences sur les productions avec des aliments jetés et des livraisons à l'arrêt. La filière laitière est particulièrement touchée. En attendant des résultats d'analyse, les agriculteurs se demandent qui va payer la facture, Adrien Toffolet.
La solidarité sera totale, répète à l'envi le ministre de l'Agriculture. Les éleveurs, par exemple, obligés de verser leur lait dans les fosses à lisier faute de collecte, n'ont pas d'inquiétude à avoir sur leur trésorerie. Il l'a encore affirmé ce mardi à l'Assemblée nationale.
Les choses sont réglées, les avances sont faites et aucun agriculteur, aucun éleveur ne sera sur le bord du chemin.
Seulement ces avances dont parle Didier Guillaume ne sont pas le fait du ministère, mais de l'interprofession. Le CNIEL, qui exceptionnellement a mis la main à la poche pour rassurer les producteurs, est prévu une enveloppe d'1 million d'euros pour compléter la paye de septembre. Pour son président Thierry Roquefeuille, le soutien tant annoncé par le ministre se fait donc attendre.
À aucun moment le ministre nous a proposé de se substituer à l'interprofession pour faire cette avance. Donc si ça a enlevé une pine au pied du ministre, tant mieux. Mais pour moi, l'avance de trésorerie, aujourd'hui à ce stade, je ne sais absolument pas quelle est la réponse qu'il nous amène en termes d'indemnisation. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est l'entreprise Lubrizol qui va indemniser? Moi, à ce jour, je ne sais pas.
La position du ministre est la suivante. Peu importe les canaux par où arrive l'argent, à la fin, les pollueurs paieront la facture. Bref, pas de quoi satisfaire l'interprofession qui espère que des gages seront donnés lors de la réunion cet après-midi et que le gouvernement voit large en termes d'indemnisation pour payer le lait détruit, mais aussi le fourrage utilisé à cause du confinement des bêtes, sans oublier le reste de la filière dont les produits finis à base de lait sont confinés par mesure de précaution.
Adrien Toffolet. Une assemblée générale est prévue ce matin sur le site de General Electric à Belfort, près des bureaux de la direction. Hier, la mobilisation des salariés s'est étendue à l'ensemble des ateliers de production des turbines à gaz. Le plan social prévoit toujours la suppression de 800 emplois. Les discussions sont au point mort. La direction regrette que l'activité du site soit autant perturbée, mais les salariés ne sont pas prêts de lâcher, Mélanie Juvet. Mélanie de France Bleu Belfort. On essaiera d'écouter ce reportage un peu plus tard. Elle n'est pas là. On passe donc à la météo qui ce matin est agitée, mais un peu moins qu'hier. Encore beaucoup de nuages, des averses attendues dans le nord et l'est, et puis de la Vendée au Puy-de-Dôme également. Météo France prévoit cet après-midi 16 degrés à Calais, 16 à Strasbourg également. Vous aurez 17 à Paris, 20 degrés à Bordeaux et 23 à Marseille.